ce sont ici les nouveaux locaux du quatrième groupe. Donc c'est aussi un des premiers séminaires qui se tiennent ici. Donc c'est aussi une inauguration dans ce sens-là. Je n'ai pas voulu délibérément faire qu'il y ait une première séance où j'aurais fait l'historique, pourquoi, comment, quels sont le projet, enfin, etc. Voilà, ce sont les intervenants qui donneront, qui définiront au fur et à mesure le projet. Je vais quand même dire quelques mots, malgré tout. Donc je prends 5 minutes sur ton temps. L'écriture du psychanalyste, c'est une question qui personnellement me tient depuis quelques dizaines d'années. Au fond, ça a été, il y a eu un choc pour moi, qui est la rencontre de Freud, ça c'est banal, mais la rencontre de l'autoprésentation, de la position d'autoprésentation chez Freud. Autoprésentation dans l'écriture. Autoprésentation caricaturalement manifeste dans le texte qui s'appelle Autoprésentation, et puis celui qui l'a précédé sur l'histoire du mouvement analytique. Mais tout texte de Freud est en même temps une autoprésentation. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que qui m'a beaucoup, qui oriente au fond mon parcours, qui conduit à mettre en place ce séminaire. Donc l'idée au fond, c'est que il y a une sorte de lien organique entre cette position d'autoprésentation et la création de la psychanalyse, l'invention de la psychanalyse par Freud. Bonsoir Yves. Alors, l'écriture du psychanalyste, ça correspond aussi à un colloque que nous avons organisé à Cerisy avec Françoise Noe et Catherine Matta, donc je crois en 2016, qui a donné lieu à un ouvrage. Et puis certains d'entre vous y étaient, c'est le séminaire universitaire alors qu'on a organisé pendant 5 ans, bonsoir, qu'on a organisé pendant 5 ans avec Françoise Noe à l'USIC. Voilà, alors continuité mais rupture, c'est-à-dire que c'est là, ce séminaire-là, il se tient dans le local de ma société analytique. C'est pas la même chose que l'université. Ça veut dire que je propose en partage une réflexion sur la place de l'écriture dans la clinique, à partir de la clinique. C'est-à-dire quel rôle l'écriture joue pour l'analyste ou le clinicien qui se réfère à la psychanalyse. L'écriture du psychanalyste, qu'est-ce qu'elle dit de la psychanalyse et qu'est-ce qu'elle dit de l'écriture? Bon, en somme, c'est ça, c'est les deux versants. Hein. C'est-à-dire, il y a le pari de penser que l'écriture fait partie de la situation analytique. Alors, j'ai proposé il y a déjà un certain temps cette idée, cette notion d'écriture potentielle, c'est-à-dire que l'analyste écrive ou pas, au sens habituel du terme, il y a quelque chose de l'ordre de l'écriture dans le fonctionnement psychique de l'analyste en situation. Hein, ça, c'est une chose importante dans les présupposés. Et l'autre chose, c'est l'idée, donc à l'opposé de... Voilà, c'est donc pas un séminaire psychanalyse et littérature, pas du tout. Hein, ça, voilà, c'est... Et certainement pas, encore moins, psychanalyse appliquée. Au contraire, c'est qu'est-ce que l'écriture offre à penser pour l'analyste, qu'il écrive ou qu'il n'écrive pas. Et qu'est-ce que ça offre à penser aussi sur l'écriture, y compris l'écriture des écrivains, mais à partir de l'expérience de l'analyste. Et bien voilà. Alors... Donc, le projet, c'est d'inviter des analystes du quatrième groupe ou d'autres sociétés, à venir inviter et animer chaque fois une soirée. Bon. Et Géniel Tounian, je souhaitais beaucoup que Géniel Tounian soit celle qui introduise ce séminaire, elle n'est pas analyste. Donc on pourrait se dire, mais alors, voilà. C'est un choix délibéré. Alors ça tient à plusieurs facteurs de nature différente. D'abord, avec Janine, ça fait très, très longtemps qu'on se connaît. Hein, voilà. Elle a été un membre extrêmement actif d'un groupe que j'avais monté il y a donc à peu près 30 ans, en 91, je crois. 91. Avec Jacqueline Rousseau du Jardin, Anne Clancier, Yaï Fonini, Gisela Lévy, Antonia Fonini, voilà, qui s'appelait Littérature personnelle et psychanalyse. Donc c'est à partir de là qu'on a commencé à travailler ensemble. Voilà. C'est une interlocutrice, donc c'est une amie au sens habituel du terme. C'est une interlocutrice au sens de quelqu'un qui incarne l'amitié dans la pensée. Hein, l'amitié dans la pensée. Ça me paraît aussi. On en a besoin.
C'est pas mal, ça, comme formule. Explique un peu.
Ah non, j'explique rien. Je voilà.
Tu peux expliquer ce que tu entends par amitié dans la pensée.
L'amitié dans la pensée. Eh bien, je vous laisse méditer. C'est.
D'habitude, on dirait la pensée dans l'amitié.
Voilà. Eh bien, moi, je dis l'inverse.
L'amitié dans la pensée.
Je dis l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de l'amitié qui ne se contacte que... Alors, puisque tu m'obliges à... Mais ça va, c'est pas seulement ça que je voulais dire, hein, mais enfin, c'est ça aussi. C'est quelque chose de l'amitié qui ne se contacte que dans la pensée. Il y a quelque chose de la pensée qui est évidemment constitutif de ce que c'est que tout ce qui se passe entre les êtres humains. Et c'est une dimension qui est quand même, il semblerait, légèrement attaquée de nos jours. Hein, voilà. C'est-à-dire, alors tu m'obliges à utiliser des gros mots, c'est-à-dire, cette notion d'amitié, c'est quelque chose qui désigne aussi le lien qu'il y a entre l'intime et le culturel.
Voilà. Moi, je peux expliquer ça par le fait que je n'ai jamais eu de conversation intime avec toi.
Exact.
Ce qui m'a frappé, c'est que quand nous avons... c'est que quand nous discutons, tu comprends ce que je dis comme personne d'autre, comme si j'avais fait un travail analytique avec toi.
Voilà. C'est tout à fait simple. Oui. C'est tout à fait simple. Donc, voilà.
Et je suis toujours très surprise.
Voilà, eh ben moi aussi d'ailleurs. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose chez toi, dans notre relation, mais bien au-delà, dans ton propre travail, dans ta propre démarche de pensée, tu te présentes comme une analysante. Pas au sens d'une éternalisante, mais une analysante qui écrit sur l'écriture de Freud, qui écrit à partir de son expérience traductrice, qui écrit à partir de son expérience traumatique. De la transmission traumatique, hein, je redouble les choses, et c'est en cela que tu convoques, en tant que dans cette position-là, que tu convoques les analystes.
Oui, oui.
Voilà, c'est comme ça que j'introduirai la.
Oui. Très rapidement, j'ai introduit le mot d'analysante parce que quand beaucoup me désignaient comme analyste, j'ai éprouvé le besoin de dire ah ben non, je suis pas analyste, je reçois pas des patients, je m'occupe pas des autres, je m'occupe que de moi.
Ça, c'est la surface.
Bon, alors
voilà, donc Janine Altenian.
D'accord. Alors, je dois dire que, pour reprendre ce qui se passait tout à l'heure, que je dis non d'abord et puis après je dis oui, c'est qu'en faisant ce travail, que vous allez voir, ce n'est pas du tout un travail, un exposé écrit. J'ai pris quelques notes parce que j'ai pensé que... parlant spontanément de la question, ça introduirait davantage de l'entretien, des discussions. Hein. Bon. Mais n'empêche que c'est en faisant ce travail que je me suis rendu compte que ton sujet, l'écriture du psychanalyste, était un sujet important, parce que je ne m'en étais pas rendu compte avant. Je ne voyais pas très bien. Alors, d'abord, pour dire, quand je dis pourquoi l'écriture d'une analysante, je dois vous préciser que ma pratique de l'écriture se fait en deux temps. C'est-à-dire que j'ai pris l'habitude, depuis ma première analyse, parce que j'en ai fait en gros deux, plus une troisième qu'on appelle quelque chose comme une tranche, j'avais pris l'habitude d'écrire toujours, après chaque séance, en gros, ce qui s'était passé. C'était dans un premier temps pour ponctuer quelque chose de ma vie, parce que la vie s'en va comme ça, on ne sait pas ce que c'est. Et je dois dire que, en fait, je n'ai jamais consulté ces textes qui sont empilés chez moi dans une armoire. Donc, dans le fond, c'était juste pour retenir qu'est-ce qui s'était passé dans la séance, alors qu'en fait, ce qui se passe dans la séance, on ne peut pas l'écrire. Ce ne sont que des points d'appui. Bon, alors, donc ça, ça s'est poursuivi jusqu'à maintenant. Et ce que j'ai remarqué, après un certain nombre d'années, c'est que ce premier intérêt que j'avais, c'est-à-dire ponctuer les choses pour pas que les choses s'envolent comme ça, sans qu'on sache, j'ai remarqué qu'en faisant ce travail, je poursuivais en quelque sorte dans l'espace du transfert, parce que je faisais cette écriture tout de suite après, je poursuivais le travail analytique de la cure, mais d'une autre façon. Je poursuivais parce que ça me faisait trouver d'autres choses. Et c'est comme si j'avais fait des économies d'analyste au lieu d'aller deux séances l'une derrière l'autre. La seconde, je la faisais seule. Mais ce n'était pas de ce qu'on appelle de l'auto-analyse, parce que ça se faisait dans l'espace transférentiel ouvert par la séance. Et j'ai toujours remarqué que parfois, il y a des illuminations qui m'arrivent comme ça, parce que je sens que dans la séance, on a travaillé. J'ai jamais eu des analystes qui parlaient beaucoup, hein. J'ai toujours eu des analystes discrets, efficaces, mais discrets. Mais on travaille un matériau psychique. Et subitement, il me venait comme ça une pensée. Alors, je vais vous donner un exemple. Il se trouve que dans mon histoire, effectivement, je suis fille de survivants du génocide arménien. Je suis née à Paris et mes parents étaient donc des migrants qui sont arrivés dans les années 20. Et j'ai eu un père dont je parle sans arrêt. Enfin, j'en parle. Enfin, ceux qui ont regardé l'événement à la BNF, vous avez vu que ce père, il est enfin casé. C'est un père qui parlait peu et qui n'avait pas beaucoup apparemment de relations avec moi. En oriental peut-être, il pensait que les enfants c'était plutôt du côté, surtout une fille, c'était plutôt l'affaire de la mère. Et donc la paternité, je ne savais pas très bien ce que c'était. Et c'est dans une écriture comme ça, en écrivant, donc dans la poursuite de l'espace transférentiel, je me suis dit, mais en fait, mon père, il avait une paternité, mais c'était une paternité empêchée. Et j'ai introduit une notion, c'est-à-dire entre l'absence de paternité, c'est-à-dire l'absence, la carence de certains hommes à pouvoir être père. Mais il y a une catégorie différente, c'est qu'un homme peut être père, mais il en est empêché. Et c'est différent. Et c'est sans doute une de ces raisons qui fait que, en fait, l'image du père a beaucoup été importante chez moi. Et que je dis même dans mon dernier livre que j'ai dû faire un transfert de ce type quand j'ai travaillé avec Jean Laplanche. J'étais dans mon fantasme, la fille qui rendait service à son père, qui était en gros d'accord avec lui. Puis si elle n'était pas d'accord, c'est pas gênant parce qu'il vaut mieux avoir un père que de pas en avoir. Alors, il vaut mieux avoir un père que de pas en avoir. C'est une pensée. Alors c'est pas prévu dans mon plan, mais c'est pour illustrer ce que je disais concernant Jean-François Quintaretto, sa compréhension très fine de ma personne, comme si j'avais fait un travail analytique avec lui. C'est-à-dire qu'il y a chez moi une capacité, c'est sans doute parce que c'est dans l'éthique des survivants, hein. Il faut prendre ce qu'on a, il faut faire avec ce qu'on a. Donc, c'est déjà mieux que rien. Une paternité empêchée, c'est déjà mieux qu'une absence de paternité. Et ce qu'il a très bien perçu chez moi, c'est qu'il y a une capacité à m'accommoder d'une non-compréhension de quelqu'un, à condition que ce soit un militant farouche, mais que la non-compréhension ne me gêne pas nécessairement, et que par exemple la non-compréhension de l'analyste n'est pas gênante et nécessairement parce que ça m'aide à mieux comprendre à quel endroit il comprend pas, c'est-à-dire à quel endroit le lien ne se fait pas. Bon, alors maintenant je reviens à mon affaire. Donc c'était la première forme d'écriture. La deuxième forme d'écriture, c'est-à-dire celle qu'on écrit pour être publié, je n'ai jamais eu envie d'écrire et je n'aime pas écrire. Et ceux qui ont écouté la vidéo voient dans quel, j'explique dans quelles conditions j'ai été amenée à écrire. C'est-à-dire que je suis parfois sollicitée dans des situations où je vois que la personne ne comprend pas. Parce qu'il est bien évident que quand on vient d'un héritage traumatique, on a une certaine vision du monde qui n'a rien à voir avec, ceux dont on pense qu'ils n'ont vécu aucun trauma. Alors qu'en réalité, quand on cherche un peu, on se rend bien compte que c'est assez fréquent chez beaucoup de gens, des traumas d'un type différent. Mais il y a au départ une non-relation entre soi et l'autre. Il y a toujours eu pour moi un monde clivé, c'est-à-dire il y avait le monde de la maison, un monde pesant, un monde de la nécessité, et puis dehors il y avait le monde de l'école. Et je n'aimais pas faire des rédactions, j'avais horreur des rédactions. Et je me suis dit un jour, mais dans le fond, là, c'est parce que j'arrive à faire des rédactions, j'arrive à écrire pour publier. Mais je pense que je ne désire pas écrire, mais je désire dire que quand on vient de cet endroit, c'est pas la même chose que ce que pense l'autre de cette affaire-là. Alors, par exemple, on va me convoquer, on va m'inviter, vous voyez, je dis convoquer, c'est pas par hasard, on va me convoquer donc pour un colloque sur tel sujet, et le sujet est présenté d'une façon telle que, en fait, j'ai pas vraiment ma place. C'est comme aujourd'hui, je ne suis pas psychanalyste, mais on m'a quand même convoqué. Et alors, il faut que je trouve comment faire le lien entre ces deux mondes. Et je pense que l'écriture, chez moi, est une entreprise pour créer du tiers entre l'univers du trauma, l'univers de la transmission traumatique, et l'univers qui semble être dans la normalité, c'est-à-dire l'univers où, si je comprends bien, fonctionne l'Oedipe, pas l'Oedipe, des choses comme ça, la névrose et tout ça. Bon. Donc c'est une entreprise de lien, et c'est comme ça que j'ai été amenée à faire mon premier texte, c'était parce que c'était donc en 1975. J'avais terminé la première analyse dont je vous parlais, celle avec une personne sur laquelle je faisais un transfert grand maternel. J'avais terminé ma première analyse, ça s'était passé très bien. Et j'avais commencé à traduire Freud dans un groupe qui est devenu après un groupe coopté par La Planche pour ses œuvres complètes de Freud. Et donc, j'ai été très secouée lors d'un livre est sorti qui s'appelait c'était un livre d'un historien, journaliste historien, c'était pas un livre très savant, qui s'appelait Arménie 1915, un génocide exemplaire. Ce qui m'a poussée à écrire, c'est parce que j'ai vu que ce livre disait des choses que moi j'avais senties à la maison, mais dont personne ne parlait. Et c'est cet écart entre ce monde qui était très pesant sur moi, qui était tellement autre que celui que je rencontrais à l'école, qui m'a obligée à écrire quelque chose. Et j'expliquais dans la vidéo que ce qui s'est passé, c'est que je ne savais pas que faire de ce texte parce que je ne désirais pas écrire, mais je voulais dire quelque chose. Et je l'ai présenté à un prof d'histoire qui s'occupait de la question arménienne. Elle m'a dit, écrivez, vous devez être un peu féministe, écrivez, envoyez votre texte avec une lettre à Simone de Beauvoir et c'est publié, c'est publiable ce texte. Et c'est comme ça que j'ai publié mon premier texte. Et au fur et à mesure, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que quelque chose qui me gêne parce qu'ils ne comprennent pas de quoi il s'agit, donc il faut que je trouve en moi les capacités de traduire en termes culturels dans une langue que j'ai apprise, puisque d'après mon histoire, j'ai dû avoir le premier contact avec la langue française à l'école maternelle. Ma mère me parlait arménien, donc j'ai appris sans doute le français, je ne me rappelle pas, donc c'est sans doute un refoulement significatif, je ne me rappelle pas ce que j'ai vécu à ce moment-là. La seule chose que je sais, c'est que dans les classes des institutrices, j'avais horreur des rédactions, alors que j'adorais l'école. Et ce clivage entre ce qui se vit à la maison, où tout est... où vraiment on sent que vivre ça va pas de soi. Et dehors c'est tellement bien à l'école, il y a les camarades, il y a les institutrices, il y a toutes ces femmes qui semblent avoir une vie facile, plus facile que celle de la mère. Eh bien subitement j'ai vu que tout ça se trouvait dans un livre qui parlait des événements génocidaires. C'est à ce moment-là que j'ai eu envie d'écrire cela. Et ça s'est poursuivi après. Par exemple, on m'a demandé « Est-ce que tu peux écrire quelque chose sur les enfants de migrants ?» C'était en 1977. Les enfants de migrants, c'est quoi ça exactement? Moi, j'ai jamais fait de sociologie. Entre-temps, je suis devenue prof d'allemand. Ma formation, c'était germaniste. Alors, c'était dans un groupe, c'est amusant, oui, c'était un groupe de prêtres, de 4-5 prêtres qui voulaient faire un travail avec un psychanalyste. Et un des prêtres, qui était un prêtre défroqué, m'avait invité à ce groupe. J'ai dit, mais moi, tout ça, non. Il m'a dit, si, t'as plein de choses à dire, viens, bon, voilà. Et donc, c'est là qu'on m'a demandé d'écrire quelque chose sur les enfants de migrants. Alors, c'était à l'école des parents. Je ne savais pas que faire. Et puis, vous allez voir comment l'école s'imbrique dans ma vie personnelle. J'adorais l'école. L'école, et puis après, les études secondaires. Je me suis dit, mais dans le fond, Andromaque, j'aimais beaucoup Andromaque. Je me suis dit, mais Andromaque, c'est une émigrée. Alors, j'ai relu tout Andromaque. Alors, je vous signale qu'Andromaque, elle n'est pas seulement émigrée, mais elle est obligée d'épouser Pyrrhus, qui est l'assassin de son mari. Et pourquoi elle est obligée d'épouser Pyrrhus ? C'est parce qu'il faut qu'elle puisse élever son fils, Astyanax. Donc j'ai relu complètement Andromaque. J'ai repris tous les vers qui servent à mon hypothèse. Et j'ai fait ce texte qui s'appelle « Une Arménienne à l'école ». Et je me rappelle alors, puisque effectivement je côtoyais beaucoup d'analystes, on m'a dit « Mais comment est-ce que tu as pu t'identifier à un personnage racinien ?» J'ai dit « C'est parce que j'aimais l'école. » Alors, si vous voulez, il y a dans le processus de traduction, puisque j'avais bâti ce que je voulais vous dire en deux étapes, c'est-à-dire que en deux parties, dans la première partie, je voudrais dire que ce que je m'efforce de faire, c'est de traduire, ce qui est un défi, hein, cet univers où on ne peut pas vraiment dire les choses, on ne peut pas dire la souffrance qu'on ressent, mais essayer de le traduire au monde des gens qui sont supposés ne pas l'avoir vécu. C'est toujours une traduction. Et je me suis rendu compte que je me sers souvent des figures de la littérature, une littérature classique française, hein, Racine, transmise par l'école, pour y trouver les mères émigrées arméniennes que j'ai connues. Et je pense que c'est dans cet entrecroisement que se trouve l'émotion de mon écriture. C'est un entrecroisement qui crée du lien et qui crée aussi de l'amour entre des situations, des cultures, des origines psychiques différentes. Et alors, une Arménienne à l'école, Andromaque, et par exemple dans le premier texte que j'avais appelé en pensant à Montesquieu, comment peut-on être persan, j'avais appelé le texte « Comment peut-on être arménien ?» le premier texte qui a été accepté. Et le livre que Jean-François Quintaretto, qui est mon premier livre, qui a fait me connaître de lui et qui m'a invité à son séminaire, le titre de ce livre vient d'une tragédie cornélienne. J'ai oublié comment s'appelle cette tragédie, mais ça va me revenir. C'est une reine d'Arménie. Alors je me suis dit, voilà, pour parler des Arméniens, je vais prendre une reine d'Arménie dans Corneille. Je savais qu'il y avait une reine d'Arménie Nicomède. C'est dans la tragédie Nicomède. Alors j'ai fait comme pour... ça c'est au début de mon écriture, hein, dans mes débuts. J'ai repris Nicomède, j'ai vu que la reine Laodice, elle a un joli prénom pour une arménienne, elle dit à son prétendant qui veut l'emmener en Bithynie, elle dit « Je ne veux pas régner sur votre Bithynie, ouvrez-moi seulement les chemins d'Arménie. » Alors voilà, vous comprenez, c'est une traduction subtile, c'est-à-dire que je restitue à mon lecteur, donc mon livre s'appelle « Ouvrez-moi seulement les chemins d'Arménie », je restitue à mon lecteur un autre horizon pour voir sa propre culture. Et ce ne sont pas des stratégies que j'ai élaborées, c'est venu spontanément en moi, et je crois que c'est venu par mon amour de l'école. C'est-à-dire, il faut pouvoir dire à l'institutrice ce que je vis à la maison. Je n'ai jamais pu le dire et maintenant je dirais que j'arrive à faire mes rédactions, c'est-à-dire que mes livres sont des rédactions réussies. Réussies parce que, alors c'est là qu'intervient le deuxième point de l'écriture, Donc, dans un premier temps, il suffit de traduire le monde sous le trauma, sous l'emprise du trauma. Évidemment, pour des analysants qui ont ce type d'histoire, ça vaut pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas pour un analysant, par exemple, qui, arrivant à une subjectivation suffisante, désire soit peindre, soit faire de la musique, soit et désire écrire. C'est pas du tout cette écriture-là. Mon écriture est en fait un moyen pour moi de poursuivre mon travail analytique. Chacun de mes textes aborde une certaine question avec ce désir de vouloir traduire à l'autre un univers qui serait étranger au sien, mais aussi ce travail de l'écriture. J'ai remarqué que pour arriver à ce que cette traduction soit bonne, il faut faire travailler le texte, il faut faire travailler les mots. Vous voyez, par exemple, la notion de paternité empêchée. J'ai pas lu ça, j'ai lu ça nulle part. Il a fallu que je cherche le mot. C'est-à-dire que je fasse un travail d'écolière, comme je faisais autrefois. Et empêcher, je trouvais ça intéressant. Et ça m'a ouvert des portes. Ça m'a ouvert des portes. Il y en a d'autres comme ça. Alors, inutile de vous dire que je ne suis pas en train de chercher mon plan, de suivre mon plan. Alors, je voulais aussi, donc je vais essayer de le suivre un petit peu. Je demande toujours aux personnes qui sont sensibles à mes interventions dans un colloque, je leur demande, mais quel est dans votre histoire psychique quelque chose qui fait que vous êtes sensible à ce que je dis? Et alors c'est très intéressant parce que je vois bien comment le monde de la transmission traumatique peut être varié. Évidemment, il y a tous les génocides du monde, il y a la Shoah, il y a le Rwanda, il y a la guerre de 14, parce qu'en fait, le génocide arménien a lieu exactement pendant qu'il y avait la guerre de 14. L'Empire ottoman a profité de cela. Et tous les enfants qui sont nés, la guerre de 14 a laissé des hécatombes de familles sans père, avec des mères qui travaillaient sans arrêt. Donc c'est des traumatismes analogues. Et puis il y a aussi, en dehors de l'histoire, j'ai remarqué des drames familiaux qui sont surtout couverts de silence. Et donc ce qu'il y a de commun entre les drames de l'histoire et les drames familiaux, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire ou qu'on ne veut pas dire. C'est une façon de travailler le silence. Alors il peut y avoir dans cette famille des gens qui se sont suicidés, ou bien des parents qui viennent de l'assistance publique, ou bien des naissances illégitimes, enfin. Mais c'est surtout le silence qui est très traumatique. Qu'est-ce que c'est qu'on ne peut pas dire? Qu'est-ce que c'est que les parents ne peuvent pas dire? Qu'est-ce qu'ils ont pu vivre qu'ils ne peuvent pas dire? Et je me sers très souvent dans mon écriture de citations. Évidemment, je cite des écrivains, des historiens, des psychanalystes. Je cite souvent René Caës. Voyez son texte, par exemple. « Rien ne peut être aboli qui n'apparaisse quelques générations après, comme signe même de ce qui n'a pas pu être transmis dans l'ordre symbolique. La lettre parvient toujours à son destinataire, même s'il n'a pas été constitué comme tel par le destinateur. La trace suit son chemin à travers les autres jusqu'à ce qu'un destinataire se reconnaisse. » Alors, vous voyez, un texte comme ça, moi, me parle énormément, parce que, comme je le disais l'autre jour à la BNF, ce qu'il y avait de très troublant pour moi, c'est que le texte, le journal de déportation de mon père, n'avait aucun destinataire. Il n'était adressé à personne. Et alors, être détenteur d'un texte qui n'est adressé à personne, ça vous met dans une situation d'obligation. Il faut faire quelque chose avec ça. Sinon, la personne meurt une seconde fois. Et donc, on devient le destinataire. Alors, donc, il y a des traumas tout à fait... C'est d'ailleurs intéressant de voir que les malheurs du monde sont bien partagés. Alors, je voulais dire aussi que dans cette entreprise de traduction, on essaye de créer un lien avec ceux qui seraient, paraît-il, ou apparemment, ou qui se croient indemnes de ça, qui se croient ou qui sont dans le déni. Eh bien, se mettre en lien avec cet autre monde crée une forme d'émancipation et crée une forme... au lieu de se sentir victime, on se sent agissant. Hein. C'est-à-dire que sur le plan politique, on n'est plus dans la victimisation ni dans la revendication. On est dans l'affirmation de sa subjectivité et du lieu d'où l'on vient. Alors, disons que ce qui m'avait beaucoup frappé, ça aussi apparaît dans ce que j'ai dit à la BNF, c'est que cet univers d'où l'on vient, où ce texte, par exemple, ce journal de déportation, il peut aussi bien être mis à la poubelle que... qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas été mis à la poubelle ? Mon père était mort il y a 8 ans déjà. Il faut le rendre visible, il faut le rendre existant. Et alors là, j'ai trouvé quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qu'a écrit Luba Jürgensson, qui est un écrivain, mais en même temps une traductrice des camps soviétiques. Et elle parle très intelligemment de ce qu'elle appelle la visibilité. Elle met en rapport la visibilité et la loi. Je trouve ça très intéressant. Elle dit « Le concept de visibilité doit être analysé en rapport avec la question de la loi. Un espace doté d'une téléologie négative est donc, par la force des choses, indéchiffrable. » Et quand elle parle de l'invisible de l'archipel, elle dit « Ce lieu, bien qu'omniprésent, doit échapper au regard, à la pensée, son mode d'être et l'absence, les camps sont situés dans un nulle part. » Bon, alors, il n'est pas utile d'être spécialiste des génocides pour savoir que toute extermination s'accompagne évidemment de sa couverture et de il faut qu'elle n'apparaisse pas, il faut qu'elle devienne invisible. Et cette invisibilité, c'est ça qui se transmet dans l'héritage. C'est-à-dire que il n'y a pas de repère pour les parents qui ont vécu ces choses-là. Il n'y a pas de point de repère pour dire ça s'est passé comme si ou c'était à cet endroit-là, parce que c'est en gros le nulle part. C'est comme pour la Shoah, on dit c'est dans le ciel, vous pourrez monter au ciel, enfin vous irez dans le ciel quand les gens arrivent. Et je dirais que dans le travail analytique d'un patient qui vient d'une telle histoire, dans un premier temps, il se produit un travail de subjectivation et de désignation du monde. Par exemple, dans le journal de mon père, ce qui est tout à fait étonnant, il cite 76 toponymes. Eh bien, c'est difficile à expliquer, mais j'ai mis un temps fou à essayer de voir où se trouvaient ces lieux. Certes, il y avait le traducteur qui avait fait une carte de son trajet de déportation, mais il fallait que j'aie du courage. Pourquoi du courage? Je ne peux pas vous expliquer. Pour confronter ces lieux à une carte géographique et effectivement pour voir que ça c'est cet endroit-là, ça c'était à cet endroit-là, ça c'était à cet endroit-là, Andana c'était ça. Et du coup, à ce moment-là, il y a dans les mots et dans l'écriture, pour parler de ce journal, il y a une appropriation de l'espace du monde avec ce qui s'est produit. Quelque chose que j'aime beaucoup aussi à propos du silence et à propos de l'indicible, Luba Jurgenson parle du brouillon perdu. Je trouve ça très intéressant. Elle dit, elle appelle brouillon perdu les traces dont on hérite mais qui ne sont pas verbalisées. Et vous avez vu tout à l'heure, René Caes parlait d'un héritage qui n'est pas entré dans l'ordre symbolique. C'est-à-dire que ça n'est pas entré dans l'ordre des mots. Et ce brouillon perdu, je trouve que c'est une notion très intéressante. Elle dit, la question qu'énonce ici Chalamov, donc c'est le traducteur des camps soviétiques, la question qu'énonce ici Chalamov est celle de la traduction, du passage de la langue de l'expérience vers celle du texte. On constate l'inadéquation des deux langues. Celle de l'expérience est infiniment pauvre, mais absolument complète. Elle ne connaît pas de manque. La langue d'arrivée est riche, au point de pouvoir être sa propre insuffisance, au loin de pouvoir dire sa propre insuffisance. L'expression du manque suppose en effet une grande complexité. Je trouve que c'est très psychanalytique ce qu'elle dit là, parce que pour qu'il y ait de la verbalisation, il faut qu'il y ait de la loi et une confrontation à la loi. Parce que je dois dire que concernant le silence, c'est pas un silence total, c'est que les survivants s'expriment par leurs gestes, par leur expression. Ce fameux père dont je vous disais qu'il disait pas grand chose, j'ai retenu quand même des expressions de lui. Après chaque repas, il disait « Aujourd'hui aussi, nous avons pu manger. » Bon, alors, ça c'est resté en moi. C'est-à-dire qu'il il y a le brouillon perdu, c'est parce qu'il y a des choses qui se disent, alors qui se disent par les gestes, de même que j'ai parlé tout à l'heure de la paternité empêchée. Dans un de mes textes, j'ai parlé de la tendresse. La mère n'est pas très tendre parce qu'il faut qu'elle travaille sans arrêt. Puis elle a été brutalisée. Donc la tendresse avec l'enfant, c'est pas le moment. Par contre, j'avais remarqué que chez ma mère, par exemple, il y avait une tendresse vis-à-vis du matériau. Et j'ai appelé ça la nidation, c'est-à-dire que on n'a pas le temps d'être tendre avec l'enfant, mais on peut faire des tricots, on peut lui faire un joli lit, on peut faire un joli berceau. À ce moment-là, la tendresse, si vous voulez, peut se déployer, la tendresse et la poésie. Or, ces notions-là, je ne dirais pas que dans le travail analytique, je ne les ai pas trouvés, mais c'est dans l'écriture que j'ai trouvé. L'écriture fait trouver ce qui permet d'expliquer à l'autre qui n'a pas connu ça. Et je trouve que l'écriture, pour moi, c'est un instrument. C'est un instrument d'une délivrance. C'est un instrument d'une délivrance pour essayer de supprimer ce clivage entre la maison et l'école, pour supprimer le clivage entre l'univers de la survie et celui des investissements de plaisir, plaisir à la pensée, à l'environnement, plaisir à l'autre. Est-ce que je poursuis comme ça dans solitairement ou tu m'interromps de temps en temps?
C'est comme tu veux.
Oh ben, je préférerais que tu m'interrompes. Je vais encore aborder d'autres choses comme ça, un petit paquet, et puis après tu m'interromperas. Alors je dis souvent aussi.
Vous avez remarqué.
Quoi donc?
Rien. C'était juste un aparté.
Vous encadrez.
Comment?
Vous avez encadré.
J'ai encadré.
Tu as exprimé, oui. Tu as exprimé clairement ton besoin, c'est bien.
D'encadrer,
tu décides le moment où je t'interromps. C'est pratique, c'est pratique pour tout le monde. C'est pratique pour moi. C'est pratique
non, mais
pour
parce
toi.
Que ce que je vous ai pas dit au début, parce que je l'avais écrit, que c'est gênant de parler que de soi, parce qu'en fait, je n'ai pas hésité du tout de parler de moi comme d'un cas clinique. Hein. C'est pour que si vous avez des patients qui viennent d'un génocide quelconque ou d'un drame catastrophique, ils ont forcément un héritage traumatique. Mon cas n'a rien de particulier, c'est un cas clinique habituel dans ce domaine-là. Alors, par exemple, je voulais vous dire, là, je vous ai parlé d'Andromaque, de Corneille. Mon fameux livre qui s'appelle « Ouvrez-moi seulement les chemins d'Arménie », sa préface, je l'ai appelée « Mes trois divans ». Alors, c'était quoi les trois divans? Alors, il y avait évidemment le divan, vous savez, le divan de l'Empire ottoman, le divan où on décrète l'extermination des gens, puisque le divan était un lieu où, en Iran, en Perse, on disait des textes fondamentaux, mais aussi des décrets pour exterminer les gens. Alors le premier divan, c'était le lieu de l'extermination, là où l'on avait décrété l'extermination des Arméniens. Le second était évidemment le divan de l'analyste. Et le troisième divan, c'était celui de ma grand-mère. Ma grand-mère a joué un rôle important dans ma vie, ma grand-mère maternelle. Et ma grand-mère ne me parlait pas du génocide. Elle disait oh, et puis ça s'arrêtait là. Mais voilà, il y a des choses qui se transmettent sans mots. Dans mes nombreuses citations, je cite aussi une idée qui m'est venue à propos de l'écriture. C'est-à-dire que, vous comprenez, j'utilise, moi, la langue. Je ne dirais pas de la psychanalyse, il y a très peu de concepts analytiques dans mes textes. J'ai effectivement une démarche de pensée qui est propre à l'analyse. Et j'utilise donc cet instrument, cette langue, comme certains ont utilisé l'écriture en tant qu'écrivain pour parler du désastre de leurs ancêtres. J'ai cité dans mes livres Annie Ernaux, évidemment, La Place, que j'avais beaucoup aimé son livre à l'époque. Il est dans mon premier livre, donc j'ai dû le publier en 80 par là. J'appelais ça de l'Arménie perdue à la Normandie sans place. Ben, vous savez, entre l'Arménie perdue et la Normandie sans place, j'aurais envie de dire que je préfère encore l'Arménie perdue à la Normandie sans place. J'ai développé cette thèse parce que je trouve que quand il y a de la pauvreté, de la servitude sur plusieurs générations qui n'ont jamais pu accéder à la culture, c'est pire que quand il y a un génocide et qu'on est survivant, parce que il y a des choses qui paraissent de la culture. La culture est là dans la manière dont on organise l'anidation de l'enfant. On fait des broderies. La culture, elle est là. Elle est là aussi dans la façon de savoir ménager, organiser sa pauvreté. Donc, des gens comme Annie Ernaux, comme Camus dans Le Premier Homme, ou Peter Handke, par exemple, dans Le Malheur indifférent, font état de malheur, de trauma, qui, à mon avis, sont pires. En tout cas, on ne peut pas dire que c'est plus facile, bien loin. Donc, c'est intéressant de pouvoir faire le lien. Et ça, je ne pouvais le faire que dans l'écriture. J'ai cité comme ça beaucoup d'écrivains, des historiens, des philosophes, etc. Et c'est pourquoi j'appelle mon écriture une écriture aussi diasporique, parce que, dans le fond, quelle est ma... puisque je n'ai pas vraiment une langue maternelle. La langue maternelle, c'est celle qui est transmise par la mère. Ma langue, a été transmise par les institutrices. Donc, il y a une sorte de soubassement culturel qui n'est pas là en tant que tel. C'est pour ça que j'appelle aussi mon écriture une écriture diasporique, qui est évidemment celle de beaucoup de gens. Hein. Bon, alors, que dire encore ? Je pourrais aussi dire, et je crois que ce sera la dernière chose, c'est que on pourrait dire que en lisant mes différents livres, on voit mon parcours analytique. C'est comme une histoire de mon développement psychique, moi en tant que clinique. On voit les différentes positions psychiques qui sont adoptées. Et c'est pour ça que c'est une écriture en spirale. C'est-à-dire que le même événement apparaît d'un livre à l'autre, mais vécu autrement. Et c'est là qu'on voit bien comment le travail analytique fonctionne. Or, ça échappe complètement, j'allais dire. L'analyste sait évidemment comment son patient a évolué. Mais il y a la transposition de ça par écrit dans l'écriture, dans les livres, ce qui fait que ce procédé se voit par exemple dans des formules. Vous voyez par exemple dans mon livre de 2000, j'ai parlé du traduire le trauma collectif. Traduire le trauma collectif, et n'empêche que dans le livre de 2012, de la cure à l'écriture, où je développe beaucoup ces choses-là, en citant d'ailleurs Aaron Appelfeld très souvent, eh bien le traduire ne devient pas traduire le trauma collectif, c'est des têtes de chapitre, hein, mais ça devient traduire pour hériter, écrire pour aimer. Parce que évidemment dans cette libération que procure le fait de traduire à l'autre, il y a tout un espace qui s'ouvre pour aimer son héritage si traumatisant. C'est-à-dire pour passer d'un héritage traumatisant à un héritage qu'on peut aimer. Et ça, je pense que c'est l'écriture qui permet ça. C'est l'évolution avec le travail sur les mots. Donc, l'écriture par spirale. Bon, j'ai encore d'autres choses à dire, mais ça suffit.
C'est le moment. Merci beaucoup, Jeannine.
Est-ce que j'ai parlé du sujet ?
Je vais essayer de te montrer en quoi, de mon point de vue, tu nous as parlé précisément du sujet. C'est-à-dire, tu nous as parlé... Bon, enfin... La première chose que tu as dite, je trouve que qui est peut-être le fil, c'est quand au début tu as dit de temps dans l'écriture. Voilà, l'écriture juste après la séance.
Oui.
Tu nous as expliqué, on ne peut plus clairement, quelque chose d'essentiel, à savoir que ça n'est pas de l'ordre de l'auto-analyse.
Ah non, non, non.
Voilà. C'est très précieux, ça. Ça n'est pas de l'ordre de l'auto-analyse, c'est la poursuite du travail analytique dans le transfert,
oui, oui, oui.
Virgule, seul.
Oui.
Seul.
En ça travaillant les mots voilà, autrement.
Voilà. Et ça rejoint ce que tu dis à la fin, de parler de moi comme d'un cas clinique, tu dis.
Oui, oui, parce voilà. que...
C'est-à-dire que, autrement dit, ce que tu fais, c'est que tu rends visible ton travail...
Oui.
Psychique, tu le rends visible pour l'analyste.
Ah oui.
Pour l'analyste. C'est ça que tu fais. C'est en ça que ça a à voir complètement avec tout ce que tu dis sur le trauma, que tu insistes sur la visibilité. Mm. Puisque la visibilité, rendre visible, c'est rendre visible pour l'autre.
Ah oui, oui, essentiellement, c'est traduire.
Si tu arrives à localiser de manière pour toi fiable, les différents lieux du parcours de déportation de ton père, tu rends visible, partageable pour les autres,
oui,
possiblement.
Il y a de la nomination.
Voilà, voilà. Et alors, ça renvoie à une autre chose absolument fondamentale que tu as dite, enfin, je trouve.
Je t'interromps, je reprends ce que tu dis. Tu as dit que j'explique ça à l'analyste.
Oui.
Mais quel analyste ? Pas celui, pas le mien. Vous ?
Tous les analystes. Mais c'est, évidemment, il y a quelque chose de l'ordre de voilà, du transfert. Mais tu nous rends visible quelque chose de ce que c'est. Qu'on ne pourrait pas dire sans toi. Alors, bon, il y a deux autres choses que j'ajouterais qui sont accrochées à ça. C'est.
Mais attends, ces choses visibles, vous les voyez chez votre patient.
On en discutera, oui et non. Attendez, je finis parce que, voilà. Tu as dit quelque chose, donc, je dis, qui a à voir, qui me semble très important, c'est le langage suppose de l'insuffisance.
Ah oui,
je voudrais insister là-dessus parce que... Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que c'est différent du blablabla sur le mot, c'est la perte ou l'absence de la chose. C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. L'insuffisance des mots, c'est pas la même chose que le mot, c'est la perte de la chose. Et gna gna gna, enfin, vous savez, on connaît par cœur.
Oui,
ça.
Oui, oui. J'ai trouvé d'ailleurs que cette réflexion sur l'inadéquation des deux langages, le langage de l'expérience qui est plein, mais qui ne connaît pas de manque, et le langage de l'écriture qui connaît le manque. J'ai trouvé que c'était une réflexion très analytique.
Voilà. Alors. Je relis ça à une autre chose que tu as dite, pas vraiment ma place. Hein? Tu dis, pas vraiment ma place. C'est-à-dire, le marqueur de l'expérience traumatique, c'est pas vraiment ma place.
J'ai dit ça.
T'as dit ça.
Oui. T'as dit c'est ça. Formidable parce que c'est tout à fait ma personne, ça.
Ben voilà. Alors, ça renvoie. Ça renvoie à un écart, tu disais, qui caractérise le trauma. Alors maintenant, du coup, ça ouvre c'est là où tu nous rends pensable, tu vois, une définition intéressante du trauma. C'est-à-dire que, à ce moment-là, le trauma, c'est une expérience où il n'y a personne. Il n'y a personne.
Ah oui, il n'y a personne.
Il n'y a personne. Il n'y a personne pour garantir non, une possible mise en mots.
Il n'y a pas de tiers.
Il n'y a personne pour garantir une possible mise en mots pour soi-même de ce qui n'était pas possible à dire par l'autre.
Oui.
Donc c'est ça le silence dont tu parles, c'est exactement ça le silence. Le silence traumatique, c'est ça.
Oui, d'ailleurs, tu expliques ça dans ton dernier livre, c'est-à-dire le parent qui est absent à lui-même est nécessairement absent à son enfant.
Voilà, voilà, d'accord. Mais enfin, je trouve que tu le dis d'une manière, tu le dis, voilà, tu le rends pensable. Hein. Tu vois, c'est ça qui est, c'est là où, voilà, la planche, alors on peut dire ça de manière plus légère. La fille qui rend service à son père, mais l'analysante qui rend service à son analyste.
Ah oui.
Tu vois?
Oui.
Qui rend service à son analyste, c'est-à-dire qui aide l'analyste à faire l'expérience et à en tirer quelque chose, il est maladroit, l'analyste.
Ben oui, voilà. Il débarque.
Il est maladroit, mais la maladresse, enfin, on a discuté souvent
de ça. Ah oui, ça, c'est la chose la plus géniale.
La maladresse, c'est ce qui permet de faire que ta traduction pour l'analyste ne soit pas trop parfaite.
Oui, oui,
c'est assez... Parce qu'il ne faut pas que ça soit trop.
Et c'est à cet endroit-là, je crois, qu'il y a de la libido.
Voilà, parce que... voilà, parce que... Exactement, parce que effectivement, du coup, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'une possible rencontre,
oui,
à minima.
Oui, à minima.
À minima.
Mais il y a une rencontre tout à fait inattendue, imprévue.
Voilà, c'est-à-dire que tu rends traductible, mais pas trop, à quelqu'un qui va essayer d'en traduire quelque chose de manière approximative. Et c'est ça qui va faire que c'est possible. Pour le sujet Jeannie Attouillan, par exemple, oui. De vivre.
Oui, oui. Voilà. Oui. Et on sort complètement de... Il y a de l'aération.
Il y a de la libido, voilà.
Oui, il y a de la libido, oui.
Voilà. Ben, écoutez, là... Maintenant, c'est à vous de parler, hein.
Donc, je pensais ne pas être dans le sujet, je suis quand même, au niveau de la place. Là.
Comme d'habitude.
Oui, mais moi, je me suis dit, comment je vais rentrer là-dedans? Je voudrais aussi vous dire quelque chose, parce que, vous savez, donc, je suis germaniste et que j'aime beaucoup les mots. Et c'est peut-être hors du sujet, mais enfin, ce que j'aimais, justement, dans l'univers de ma famille... c'est l'artisanat, c'est-à-dire que les mains créent de la vie. Les mains créent de la vie. Et j'ai beaucoup aimé ce texte de Benjamin qui fait un lien entre l'âme et la main dans la posture du narrateur. Et il appelle le narrateur, l'écrivain. Cet artisan en train de travailler la matière première des expériences. Alors, là, je vais vous lire la traduction, mais en vous faisant un petit travail sur les mots. C'est que l'artisanat se dit en allemand, où il y a beaucoup de mots composés, das Handwerk, die Hand, c'est la main, et Werk, c'est l'œuvre. L'œuvre, le travail. Wirken, c'est travailler. Donc, das Handwerk, c'est l'artisanat. Et il y a dans ce texte énormément le verbe wirken et das Handwerk apparaît très souvent. Et puis, évidemment, le terme de travail, Arbeit. Alors, il dit dans la véritable narration est aussi à l'œuvre, donc hineinwirken, entre dans l'œuvre, la main, dit Hand, qui de ses gestes rodés par l'expérience du travail, soutient de mille manières ce qui se fait entendre. Je relis. Dans la véritable narration est aussi à l'œuvre, la main, qui de ses gestes rodés par l'expérience du travail, soutient de mille manières ce qui se fait entendre. L'ancienne coordination de l'âme, de l'œil et de la main est la coordination artisanal. On peut aller plus loin et se demander si la relation qui lie le narrateur à son matériau, la vie humaine, n'est pas même une relation artisanale. Si la tâche du narrateur ne consiste pas précisément à travailler de manière solide, utile et unique, la matière première des expériences. Et je trouve que ce travail d'écriture que j'appelle la traduction, rendre visible, c'est ein Handwerk, c'est un travail artisanal. Et j'ai beaucoup aimé ce texte où on voit ces trois signifiants, werken, die Hand, et puis arbeiten, bearbeiten. Alors je pense aussi que il doit y avoir chez moi quelque chose de très investi dans le rapport à l'allemand. Oui. Et à l'allemand qui permet de penser. Oui. Et c'est pour ça que ce que tu as dit tout à l'heure, entre la position de Freud dans l'autoportrait, l'autoprésentation, Selbstdarstellung, oui. C'est de là qu'est née l'analyse. Moi, j'en suis convaincue, oui. Parce que Freud avait en lui plusieurs langues. Il y avait le yiddish, l'allemand, la culture gréco-romaine, la judaïté. C'est toutes ces choses-là qui sont tissées ensemble.
L'autoprésentation, oui, rendue possible par l'écriture.
Oui.
Enfin,
oui.
C'est même plus que rendu possible. Le localisable se manifestant dans et par l'écriture.
Oui. Voilà. Et la psychanalyse, tu as dit, elle vient de là.
Elle vient de là.
Oui.
Absolument.
Oui. Moi, j'en suis convaincue.
Ça,
oui.
C'est pas toujours facilement accepté, ça, cette idée-là.
Oui, parce que il faut le lire en allemand.
Oui, oui. En plus, mais ça choque quand même.
Ça choque ?
Je t'assure, ça choque.
Et qu'est-ce qu'il y a de choquant exactement ?
Ah bah, ça choque.
Ben si, essaye de me dire. Qu'est-ce qui choque là-dedans ?
Parce que c'est plus facile de penser que, bien évidemment, la psychanalyse est née, par exemple. Alors, par exemple, autre chose, pas non plus facile. À mon avis, c'est pas sans lien. C'est de. Je trouvais ça chez Green, là, que je relisais tout, oui, cet après-midi. Au fond, ne pas oublier, acte d'humilité, que la psychanalyse est née grâce à une analysante.
Ah oui.
Ah oui.
Ah oui. Ah oui. Ah oui.
Donc ah une oui. cure, c'est ah. ça. Va. Mmh. Ah. Tu n'es pas donc. Ça m'a fait penser à toi. Je veux dire, tu n'es pas sans rapport à cette figure-là. Tu vois.
Oui. Ah oui, bon. C'est ça.
Mais non, mais ça choque. Alors, pourquoi ça choque, je ne sais pas bien, d'ailleurs. Enfin, ce qui se manifeste quand j'ai pu voir ça, c'est qu'en fait, c'est tellement plus apparemment facile de dire que, bien sûr, la psychanalyse est née de la clinique.
De la parole.
Voilà.
Je me demande si on n'est pas autour de ça.
Oui.
La parole.
Oui.
Et la parole, oui. Tu vois, l'oralité.
Oui, oui.
Ah oui, oui. Ah oui, l'oralité, oui.
Et, voilà.
Oui. Oui. Ah oui.
Donc il y aura oui. toujours des gens qui penseront que ça vient de la parole. Ce qui n'est pas la même chose que l'écriture.
Voilà.
Oui. Bah, c'est voilà. Le mouvement de l'écriture.
Voilà. Ça renvoie donc justement l'écart.
L'écart.
L'écart que matérialise, que rend visible l'écriture. Et ce qui est quand même fantastique chez Freud, à ce point-là, c'est unique, je crois, en tout cas exceptionnel, c'est cette capacité qu'il a à montrer un penser en cours, toujours.
Ah oui, 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 oui.
Il y a peut-être un ou deux textes où c'est moins net, mais dans la quasi-totalité de ces textes, c'est une pensée en cours.
Oui, oui, il dit, je ne suis pas tout à fait d'accord, et j'hésite. Voilà. il restitue le mouvement de sa pensée.
C'est-à-dire que lui aussi, il rend visible pour nous, constamment. Oui. Constamment. C'est comme ça qu'il a inventé la psychanalyse. Mm-hmm. Mais ça ne plaît pas toujours quand on dit ça. Voilà. C'est comme ça.
C'est vrai que Freud le fait, ça, de montrer et d'écrire la pensée en cours. Enfin, c'est tout à fait juste. Mais c'est pas le seul. Il se trouve que j'ai lu récemment un petit peu Minkowski, parce qu'il y a eu un colloque sur Minkowski à Sainte-Anne hier. Et c'est très frappant, quand on lit certains textes de Eugène Minkowski, à quel point on a l'impression aussi, en le lisant, de le voir penser littéralement.
Ah non, mais ça, d'accord, ça, il y a beaucoup de gens, et on peut souhaiter ça un petit peu pour soi-même. Mais lui, il invente la psychanalyse comme ça. Oui. Donc ça fait petite différence. Oui. Il invente la psychanalyse comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose de l'ordre de... Il radicalise, on pourrait dire, alors ça non plus, c'est difficile à dire, mais au fond, il radicalise quelque chose du geste autobiographique. C'est-à-dire, il radicalise, il fait de l'autoprésentation quelque chose qui rend possible la psychanalyse. Autrement dit, par exemple, qui lui rend possible